Thomas Sawyer.
Monsieur ?
Alors, monsieur, vous êtes régulièrement en retard. C'est votre façon à vous d'être exact. Voyons. Quelle nouvelle excuse allez-vous nous inventer aujourd'hui ? Alors, pas le moindre petit bout d'excuse ? De mieux en mieux, monsieur Tom.
Ça peut pas faire de mal.
J'avais rendez-vous avec mon ami Culberéfine. Nous avions des questions importantes à régler.
J'ai sans doute mal entendu, répète un peu.
Mais si, vous avez très bien entendu.
Est-ce que tu te rends compte que ton aveu est aussi extraordinaire que monstrueux ?
Oui, monsieur.
Tu reconnais donc qu'aucune des punitions normales ne saura suffire à l'importance de ta faute ?
Oui, monsieur.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ah, au moins tu le reconnais.
Ça peut pas faire de mal.
Pourquoi ne pas tout abandonner ? Disparaître mystérieusement. Aller s'en aller loin, très loin, au-delà des mers, dans des pays inconnus pour ne plus jamais revenir. Il se sentait né pour planer dans les régions du romantisme. Il serait soldat, et après de nombreuses campagnes, il reviendrait chargé d'années et de gloire. Mieux encore, il irait chez les Indiens, il chasserait le buffle, s'engagerait sur le sentier de la guerre et dans les grandes plaines sans piste du Far West. Il deviendrait un grand chef, il serait tout couvert de plumes, il aurait la figure toute tatouée. Et puis, un moite et lourd matin d'été, il reviendrait. Il ferait irruption à l'école en poussant un cri de guerre si terrifiant que tous ses camarades se dessécheraient de jalousie. Fi donc, il y avait mieux encore à faire, être pirate. Oui, c'est cela. Voilà l'avenir qui s'offrait à lui dans toute sa splendeur. Sa renommée s'étendrait sur le monde entier. Et les bonnes gens se signeraient à la seule évocation de son nom. Quelle ivresse n'éprouverait-il pas à parcourir les mers sur son vaisseau rapide et léger, le génie des tempêtes, arborant au mât de misaine son lugubre drapeau. À l'apogée de sa gloire, il apparaîtrait soudain dans son village natal. Il entrerait dans le temple, le visage hâlé par les intempéries. Vêtu d'un justaucorps de velours noir, de chausses noires, de bottes noires, portant une écharpe rouge, les pistolets d'arçon à la ceinture, le poignard de côté, le chapeau à plumes sur la tête, son lugubre drapeau flottant au vent. Avec quel délice n'entendrait-il pas les gens chuchoter sur son passage « C'est Tom Sawyer, le pirate, le terrible vengeur noir de la mer des Antilles !» Sa décision était prise. Il avait choisi sa carrière. Dès le lendemain, il quitterait la maison de Tante Polly et commencerait sa nouvelle vie. Cette promesse d'un destin héroïque remplit les rêves d'un jeune garçon intrépide, débordant d'énergie et toujours prêt à faire les 400 coups. Vous aurez reconnu le héros du célèbre roman de Mark Twain, « Les aventures de Tom Sawyer », publié en 1876. S'inspirant de son enfance dans le Missouri dans les années 1840, l'auteur, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, travaille comme typographe dès l'âge de 12 ans, puis à 20 ans s'engage sur un bateau à vapeur. Cette expérience lui inspirera son nom de plume, Mark Twain, qui est l'expression utilisée par les matelots pour signifier que la profondeur de l'eau est suffisante pour la navigation. Après la guerre de Sécession, où le natif du Sud rejoint finalement le camp nordiste, l'écrivain devient d'abord reporter à San Francisco, puis voyage en Europe et se fait connaître pour ses chroniques humoristiques. C'est ce même humour qui a fait le succès de Tom Sawyer, car le livre, considéré comme un classique de la littérature enfantine, s'adresse aussi aux adultes par le regard ironique et critique qu'il porte sur la société américaine de l'époque, pétrie d'hypocrisie et de superstition. Je vous invite à remonter le cours du temps sur les rives du Mississippi et à retomber en enfance. Bienvenue dans l'univers malicieux de Tom Sawyer. Découvrons notre jeune héros et son talent pour l'art de l'esquive. Orphelin, Tom Sawyer vit chez sa tante Polly, en compagnie de son petit frère Sid et de sa cousine Mary. Un vendredi soir, il est dénoncé par Sid pour avoir fait l'école buissonnière.
Et dans quel état est-ce que tu reviens ? Sale et déchiré, depuis les pieds jusqu'à la tête. Comme punition, demain après le culte, tu repeindras la clôture.
Peindre toute la clôture ? Oh non, Tante Polly !
Oh si, tu la repeindras des deux côtés.
Nous sommes au chapitre 2, intitulé « Le sens des affaires ». Il pensa à tout ce qu'il avait projeté de faire en ce malheureux après-midi. Son chagrin redoubla. Bientôt, ses camarades, libres, partiraient faire de merveilleuses promenades et se paieraient la tête du pauvre Tom qui, lui, devait rester là à travailler. Il sortit tout ce qu'il avait dans les poches et en fit l'inventaire. Des débris de jouets, des billes et quelques bricoles. Même pas de quoi marchander une demi-heure de liberté. Rien que de penser à cela, il se sentait devenir enragé. Le désespoir allait l'envahir quand tout à coup, il eut une inspiration. Une idée lumineuse. Un trait de génie. Il reprit son pinceau et se remit au travail. Justement, Ben Rogers débouchait là-bas au coin de la rue. Entre tous ses camarades, c'était celui dont il redoutait le plus les railleries. À l'allure de Ben, on devinait tout le plaisir qu'il se promettait de sa journée. Tout en grignotant une pomme, il fredonnait une sorte de murmure entrecoupé de bruits de cloches émis d'une voix grave. Ben jouait le rôle d'un bateau à vapeur rentrant au port. Comme il approchait, il ralentit l'allure, suivit le milieu de la chaussée comme un chenal, pencha vers tribord, vira pesamment avec force d'état et de circonstance, car il personnifiait le grand Missouri. Et n'oubliez pas qu'il avait 3 mètres de tirant d'eau. Il était à la fois le navire, le capitaine et l'appareil de signalisation aux machines. Tantôt, sur la passerelle, le capitaine donnait des ordres, tantôt l'équipage les exécutait. « Machine arrière, à bâbord. Dring, 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 chou. Tribord, stop. Dring, dring, dring. Bâbord, stop. Laisse arriver, chou. Jette la mare, dépêchons, accoste le quai, lâche la vapeur. » Le navire se rangeait lentement le long du quai, c'est-à-dire en l'espèce du trottoir. Sans se soucier le moins du monde des évolutions du pseudo-bateau à vapeur, Tom continuait à badigeonner. Ben le regarda un instant. « Eh, dis donc, te voilà amarré aussi, toi ?» Pas de réponse. D'un œil d'artiste, Tom examina l'effet de son dernier coup de pinceau. Ben s'approcha de lui. À le voir grignoter sa pomme, Tom sentit l'eau lui venir à la bouche, mais imperturbable, il continua. « Dis donc, vieux, tu travailles ?» Tom se retourna brusquement. « Ah, c'est toi, Ben, je ne t'avais pas vu. Nous allons nous baigner, tu ne viens pas ?»« Non, tu aimes mieux travailler, je vois ça. »
Que j'aime ça? Pourquoi pas? Tu appelles ça travailler? On n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture.
La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom promenait son pinceau de gauche à droite, de droite à gauche, se reculait pour juger de l'effet, ajoutait une touche ici ou là, se reculait à nouveau. Ben suivait des yeux chacun de ses mouvements. Il s'intéressait, se passionnait. Il finit par dire « Tom, laisse-moi badigeonner un peu, moi aussi. » Tom hésita. Il était sur le point de consentir, mais au dernier moment, il se reprit. « Non, je ne peux pas faire ça, Ben. Vois-tu, Tante Polly est très exigeante. Il faut que ce soit bien fait. Il n'y en a peut-être pas un d'entre nous sur 1000, un sur 2000 qui ferait ça comme il faut. Sid a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. Marie a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. Si tu te mets à badigeonner, suppose qu'il arrive quelque chose, je serai dans le joli drap. » « Allons, laisse-moi essayer, rien qu'un tout petit peu. Tiens, je te donnerai la moitié de ma pomme. »« Non, Ben, j'ai peur que... Je te donnerai tout ce qui reste de ma pomme. » Tom abandonna son pinceau à contre-cœur. Il était ravi du succès de sa manœuvre. Et tandis que l'ex-grand Missouri peinait et transpirait au soleil, l'artiste, en retraite, assis à l'ombre d'un tonneau, les jambes ballantes, grignotait sa pomme tout en méditant le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. Tour à tour, elles se présentaient, d'abord dans l'intention de se divertir, puis elles restaient pour badigeonner. Avant que Ben Rogers en eût assez, Tom avait négocié sa succession en faveur de Billy Fisher, moyennant un cerf-volant. Après Billy Fisher, John Miller se fit adjuger la place moyennant un rat mort et la ficelle qui servait à le traîner, et ainsi de suite les uns après les autres. Au milieu de l'après-midi, Tom, qui le matin était pauvre comme Job, regorgeait de richesses. Outre le butin déjà mentionné, il comptait au tableau 12 billes, l'embouchure d'un sifflet, une clé qui n'ouvrait rien, un soldat de plomb, 2 tétards, 6 pétards. Tom s'était bien amusé. Il avait passé un après-midi délicieux à ne rien faire. De nombreux camarades lui avaient tenu compagnie et la clôture était revêtue de 3 couches de badigeon. Tom se dit en lui-même qu'après tout, l'existence était fort supportable. Sans s'en douter, il avait découvert une grande loi sociale. À savoir que pour amener un homme à désirer quelque chose, il n'y a qu'à lui rendre cette chose difficile à atteindre. Si Tom avait été un grand, un profond philosophe comme l'auteur de ce livre, il aurait compris que le travail consiste en une tâche que l'on est obligé d'accomplir, alors que tout le plaisir consiste à faire travailler les autres à sa place.
Tu vas aller jouer maintenant, Tante Polly?
Combien de planches as-tu peintes?
Toutes, ça y est, 3 couches, tu sais.
Attention, Tom, c'est très vilain de mentir. Je ne supporte pas ça.
Ben, regarde.
Ça, alors. Te la veux toujours dit, non. Tu sais travailler quand tu fais un effort. Allez, va jouer, mon petit. La vertu doit avoir sa récompense, comme il est dit dans la Bible.
Retrouvons le garnement au moment de la journée qu'il préfère, la sortie de l'école. La semaine suivante, Tom Sawyer fait preuve d'une régularité inhabituelle sur les bancs de l'école. C'est qu'il ne veut pas manquer la compagnie d'une nouvelle élève, Becky Thatcher, arrivée avec sa famille depuis peu au village de Saint-Pétersbourg. Dès leur première rencontre, Tom gagne l'admiration de la fillette grâce à ses dons pour le dessin. Le lendemain, il lui promet de lui donner une leçon particulière. Nous voici au chapitre 7, intitulé « Fiançailles ». La classe finie, Tom courut vers Becky et lui chuchota à l'oreille « Mets ton chapeau et fais comme si tu rentrais chez toi. Quand tu seras arrivé au tournant, laisse passer les autres et reviens par la petite allée. Je ferai le même trajet en sens inverse. » Becky partit avec son groupe, Tom avec le sien. Peu après, les deux enfants se rencontrèrent et revinrent dans la salle de classe où il n'y avait plus personne. Ils s'assirent sur un banc avec une ardoise devant eux. Tom donna à Becky un morceau de craie et, guidant sa main, l'aida à dessiner une maison aussi merveilleuse que la veille. Quand les questions d'intérêt artistique furent épuisées, le bavardage reprit ses droits. Tom demanda « Aimes-tu les rats ? Tu sais les rats morts qu'on fait tourner au-dessus de sa tête avec une ficelle ?»« Oh non, je les ai en horreur. Moi, ce que j'aime, c'est les chewing-gums. »« Oh, moi aussi, je voudrais bien en avoir un morceau. »« J'en ai un, je vais te le laisser mâcher un peu, mais après tu me le rendras. » Marché conclu. Ils mâchèrent chacun leur tour en balançant leurs jambes de contentement. « As-tu jamais été au cirque ?» demanda Tom. « Oui, et papa m'a promis de m'y emmener encore si je suis sage. »« Tu parles, c'est autre chose que d'aller à l'église. Au cirque, il se passe tout le temps quelque chose. Quand je serai grand, je serai clown dans un cirque. » »« Oh oui, comme ça doit être amusant de se peindre la figure comme ils le font. Et ils gagnent beaucoup d'argent, presque tous $1 par jour. C'est Ben Rogers qui me l'a dit. » « Dis Becky, as-tu déjà été fiancée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, fiancée pour te marier ? Non, jamais. Ça te ferait plaisir ? Peut-être, je sais pas. En quoi cela consiste-t-il ? Bon, simplement, on dit à un garçon qu'on n'épousera jamais que lui, et puis on s'embrasse, et voilà tout. Tout le monde fait ça. S'embrasser ? Pourquoi s'embrasser ? Parce que c'est pour... Enfin, ils font tous ça. Tous ? Ben oui, bien sûr, tous ceux qui aiment quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai écrit sur l'ardoise hier ? Oui. Qu'est-ce que c'était ? Je ne te le dirai pas. Veux-tu que je te le dise ? Oui, mais pas aujourd'hui. Si, maintenant. Non, pas maintenant. Demain. Si, maintenant, je te le dirai tout bas dans le creux de l'oreille. Becky hésitait. Qui ne dit rien consent, pensa Tom. Il lui passa son bras autour de la taille, et tout bas, timidement, bouche contre oreille, il murmura « Je t'aime » et ajouta « Dis-le-moi tout bas, toi aussi. » Elle résista un instant et finit par dire « Tourne la tête pour que je ne te voie pas et je te le dirai. Mais il faut raconter ça à personne, Tom. À personne, c'est promis, c'est juré. Je ne le dirai à personne, Becky. » Et il tourna la tête. Elle se pencha timidement jusqu'à ce que son haleine fît remuer les boucles de Tom et murmura « Je t'aime. » Alors elle se leva et, poursuivie par Tom, courut autour des bancs et des pupitres pour se réfugier finalement dans un coin en se protégeant le visage de son tablier. Tom la prit par le cou. « Eh bien, Becky, maintenant nous n'avons plus qu'à nous embrasser. N'aie pas peur. » Petit à petit, elle céda et baissa les mains. Elle était toute rouge. Tom l'embrassa.
In the golden street and the silver clouds in the candy fields with their sugar plows in the high oak trees and the morning dew I'll be here with you I'll be here with you streets and the silver clouds in the candy fields with their sugar plows in the high oak trees and the morning.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Laissons les affaires de cœur et revenons aux choses sérieuses. Après ce premier baiser, une scène de jalousie éclate entre Tom et Becky, qui se séparent fâchés. Mélancolique, notre jeune héros cherche réconfort dans la nature. Il se dirige vers la colline qui surplombe la ville, pénètre dans la forêt et se réfugie au pied d'un grand chêne qui lui sert de repère. Bientôt, ses peines sentimentales se dissipent et des considérations viriles reprennent le dessus. Retrouver la cachette où il a enterré une bille, lire l'avenir sur le dos d'un cloporte, chasser les sorcières, quand un signal lui indique soudain le début de nouvelles hostilités. Nous voici en plein voyage dans le temps, à l'époque des croisades. Extrait du chapitre 8, Pirates en herbe. À cet instant, la sonnerie d'une trompette d'enfant se fit entendre. Alors Tom retira sa veste et sa culotte, transforma ses bretelles en ceinture, écarta quelques broussailles derrière le vieux tronc, tira du fourré un arc, une flèche, une épée de bois, une autre trompette, et muni de tout ce fourniment, il s'élança en avant, les jambes nues, la chemise au vent. Arrivé sous un grand orme, il souffla à son tour dans sa trompette et, marchant sur la pointe des pieds, les mains en auvent sur les yeux, il regarda dans toutes les directions. S'adressant à une escorte imaginaire, il dit « Silence, mes braves, restez cachés jusqu'à ce que je sonne du cor !» Et Joe Harper apparut, aussi légèrement vêtu et aussi formidablement armé que Tom. « Halte !» s'écrie Tom. « Qui donc pénètre dans la forêt de Sherwood sans ma permission ?» « Guy de Guiborne n'a besoin de la permission de personne. Et qui donc es-tu pour tenir un pareil langage ?» souffla Tom en achevant la réplique. Car l'un et l'autre jouaient de mémoire et ils répétaient mot pour mot les phrases de leur livre. « Qui es-tu donc pour tenir un pareil langage ?»« Qui je suis ? Je suis Robin des Bois. Ta chétive carcasse l'apprendra bientôt. C'est toi le redoutable hors-la-loi ? « Je tiens à l'honneur de disputer le passage sous ces grands arbres. En garde !» Ils saisirent leurs épées, se débarrassèrent du reste de leur attirail, prirent la position réglementaire, pied contre pied, et commencèrent un combat en règle. Au bout de quelques passes d'armes, les deux combattants étaient en nage. « Je te touche et tu meurs !» s'écria Tom. Bah, « Pourquoi est-ce que tu ne tombes pas ?»« Je ne tombe pas, c'est à toi de tomber !» répliqua Joe Harper. « C'est toi qui n'en peux plus !» « Eh bien quoi, je ne peux pas tomber, dans le bouquin il y a « Alors d'un coup de revers, il tua le pauvre Guy de Guiborne. Tu dois te retourner et je te touche dans le dos. » La citation faisait foi, rien à dire. Joe se retourna, reçut le coup et tomba. « Maintenant, dit Joe, à moi de te tuer, chacun son tour. »« Ah non, j'y peux rien, ce n'est pas dans le texte. »« Eh bien ce n'est pas juste, voilà tout. » »« Écoute Joe. » Tu n'as qu'à faire frère Tuck et m'étriller avec un bâton de pèlerin. Comme ça, tu pourras me laisser pour mort. Ou alors, je vais faire le shérif de Nottingham, toi tu feras Robin des Bois et tu me tueras. Ainsi, Joe Harper eut satisfaction. Ensuite, Tom redevint Robin des Bois. La nonne perfide le laissa perdre tout son sang par sa blessure ouverte. Joe, personnifiant une tribu de hors-la-loi en pleurs, le releva et lui mit son arc en main. « Là où tombera cette flèche, dit Tom d'un ton solennel, « c'est là que vous enterrerez le pauvre Robin des Bois. » Avec son arc, il tira une dernière flèche et s'affaissa. Mais tombant sur un lit d'ortie, il se releva plus précipitamment qu'il n'eût convenu à un moribond. Les deux gamins se rhabillèrent et rangèrent leur équipement dans leurs cachettes respectives. Ils rentrèrent en trouvant que c'était bien dommage qu'il n'y eût plus dehors la loi et en se demandant ce que la civilisation moderne pouvait bien se vanter d'avoir fait pour compenser cette perte. Quant à eux, ils aimaient mieux être hors la loi pendant un an dans la forêt de Sherwood que président des États-Unis pour le restant de leur jour. Retrouvons l'intrépide Tom Sawyer en compagnie de son autre meilleur ami. Le soir venu, il retrouve son complice de toujours, Huckleberry Finn, lui aussi orphelin de mère. Délaissé par un père ivrogne, l'enfant dort la nuit dans un tonneau. Ils se sont donné rendez-vous à minuit au cimetière pour y faire une expérience inédite vérifier sur la tombe d'un homme décédé récemment si les chats morts ont le pouvoir magique de guérir les verrues. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Extrait du chapitre 9, drame dans un cimetière.
Le silence était sinistre. Petit à petit, dans l'obscurité, de légers bruits se firent entendre. De toute évidence, les fantômes étaient en promenade. C'était un cimetière à l'ancienne mode de l'Ouest. Il occupait le sommet d'une colline à environ 2,5 km du village. Il était entouré d'une clôture irrégulière. De mauvaises herbes prospéraient sur toute son étendue. Toutes les tombes anciennes s'étaient effondrées. Des planches à moitié pourries se dressaient au travers des tombes. Les arbres bruissaient sous la caresse du vent. Tom croyait entendre la plainte des âmes des morts, dérangées dans leur repos. Tout décontenancés, les deux gamins, parlant à voix basse, trouvèrent la tombe fraîchement creusée qu'ils cherchaient et se dissimulèrent derrière un bouquet d'ormes à proximité. Ils attendirent quelques instants qui leur parurent interminables. Le ululement d'un chat huant se fit entendre au loin. Tom n'en pouvait plus. Il se disait que le temps avait dû faire place à l'éternité. Il chuchota « Qui ? Est-ce que tu crois que ça leur fait plaisir aux morts que nous soyons là ?»« Je n'en sais rien, » répondit Huckleberry sur le même ton. « Dis donc, Huck, tu crois que le vieux Williams entend ce que nous disons ?»«
Bien sûr qu'il nous entend. En tout cas, son âme.
Oh, j'aurais dû dire Monsieur Williams. Mais je n'ai pas voulu le froisser, tout le monde l'appelait le vieux Williams.
On ne fait jamais assez attention à ce qu'on dit des morts, Tom. »
La réflexion de Huck jeta un froid. Le silence régna de nouveau. Tout à coup, Tom saisit le bras de son camarade.
« Chut !
Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Huck, le cœur battant. « On entend quelque chose. Tu n'entends pas ?»«
Si. Ils viennent, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ?»«
C'est pas. Tu crois qu'ils nous voient ?»«
Pas de doute, ils voient dans le noir comme les chats. Je voudrais bien être ailleurs, moi. Je tremble comme une feuille. »«
Regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est ?»
Ça doit être un feu follet. Oh, Tom, j'ai peur.
Les deux gamins retinrent leur respiration. On entendait un vague murmure de voix venant de l'autre bout du cimetière. Plusieurs formes indistinctes s'approchaient dans l'obscurité. L'une d'elles balançait une lanterne de fer blanc qui projetait sur le sol d'innombrables petites lumières. Huck reprit.
Ce sont les diables. Ils sont trois. Tom, nous sommes fichus. Est-ce que tu sais tes prières ?
« Oui, mais t'en fais pas. Peut-être que si nous ne bougeons pas, ils ne nous feront rien de mal. »«
Chut, tais-toi » !»«
Qu'est-ce qu'il y a, Huck ?
Ce sont des vivants. En tout cas, il y en a un, je reconnais la voix de Muff Potter, cette vieille fripouille. »«
Sans blague. »«
Si, je le connais bien. Il traîne souvent avec mon père. »«
Ne bouge pas, il n'est pas en état de nous voir. Il doit être saoul comme d'habitude. » »«
Les voilà qui approchent. »«
Dis donc, Huck, il y a une autre voix qui m'est pas inconnue, celle de Joe l'Indien. »
C'est vrai, c'est bien ce métis de malheur. J'aimerais mieux avoir affaire à de vrais diables. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ?
Les deux gamins se turent, car les trois hommes étaient maintenant près de la tombe du vieux Williams, à quelques mètres de leur cachette.
C'est ici, dit la troisième voix, dont le propriétaire, soulevant la lanterne, s'éclaira le visage. Dépêchons les gars, la lune peut se montrer d'un instant à l'autre.
C'était le jeune docteur Robinson. Les deux hommes marmonnèrent une vague réponse et se mirent à creuser la terre. On n'entendait plus que le bruit monotone des bêches remuant le gravier. Finalement, l'un des outils heurta le cercueil avec un bruit sourd et une minute ou deux après, les deux hommes le sortirent de terre. Ils forcèrent le couvercle, retirèrent le corps qu'ils laissèrent brutalement retomber sur le sol. La lune émergea de derrière un nuage et éclaira en plein la face du mort. Ils enveloppèrent le cadavre d'une couverture et ficelèrent le tout. Potter tira soudain de sa poche un couteau à cran d'arrêt.
« Docteur, le travail est fait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à nous aligner un autre billet de 5 $, sinon on vous laisse vous débrouiller avec le Maccabée. »
« Voilà qui est bien parlé, » dit Joe l'Indien.
« Voyons, qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria le docteur. « Vous m'avez demandé de vous payer d'avance, je vous ai payé. »
« Sans doute, mais vous avez fait mieux que ça, » répliqua Joe l'Indien en s'avançant vers le docteur, le couteau de Muff Potter à la main.
« Il y a 5 ans, vous m'avez chassé de la cuisine de votre père, un soir que j'étais venu vous demander quelque chose à manger. Et vous m'avez dit que si j'étais là, c'était sûrement pas pour faire de la bonne besogne. Et quand je vous ai promis qu'un jour j'aurais ma vengeance, votre père m'a fait mettre en prison pour vagabondage. Vous croyez que j'ai oublié ? Ce n'est pas pour rien que j'ai du sang indien dans les veines. »
Maintenant, je vous tiens et nous allons régler nos comptes. »
Il menaçait le docteur, lui mettant son poing dans la figure. Le docteur riposta d'un crochet qui mit le métis par terre. Potter lâcha le couteau et s'écria
« Et là, ne touchez pas à mon copain !»
Potter empoigna le docteur à bras-le-corps. Ils se lancèrent dans une lutte farouche. Joe l'Indien s'était relevé, ses yeux flamboyaient de colère. Il ramassa le couteau de Potter et, tournant autour des deux combattants comme une bête fauve, guetta l'occasion d'intervenir. Tout à coup, le docteur se dégagea, s'empara d'une pièce de bois provenant de la tombe de Williams et assomma Potter qui s'écroula comme une masse. Alors Joe l'Indien bondit, plongea le couteau jusqu'à la garde dans la poitrine du docteur qui chancela et s'écroula à son tour. Reprenant son souffle, Joe l'Indien se pencha sur les deux corps, plaça le poignard fatal dans la main droite de Potter et ricana. «
Notre compte est réglé, » murmura le métis. « Que le diable t'emporte !»
À ce moment, la lune disparut derrière les nuages et cacha ce spectacle aux yeux des gamins qui, épouvantés, s'enfuirent dans l'obscurité de toute la vitesse de leurs jambes.
Comment penses-tu que ça va finir, cette histoire de cimetière ?
Si le docteur est mort, il y aura quelqu'un de pendu. À condition qu'il trouve le coupable.
Comment veux-tu qu'il le trouve, si personne ne parle? Tu parleras, toi?
Moi? Oh non, je me couperai plutôt la langue.
Ok, il faut jurer, c'est plus sûr. Tu vas répéter ce que je vais dire. Viens. Huckleberry Finn et Tom Sawyer jurent de garder le secret.
Huckleberry Finn et Tom Sawyer jurent de garder le secret.
Sur le coup du cimetière et sur toute la suite.
Sur le coup du cimetière et sur toute la suite.
Ils tomberont ras de mort s'ils parlent et pourriront sur place.
Eh ben mon vieux, c'est pas piqué des hannetons.
Attend the tale of Maxwell Roth, he sought the footlights like a moth, his sense of timing never off until he opted to collaborate with a hooded reprobate, the blighter and assassin made a deadly double bill. Jokes, 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 make them laugh until they choke, fairly slay them in the aisles, maidens fair and princes charming. Thrills, 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 dashing feats and bloody spills, and I guarantee you'll never see the ending coming. Attend the tale of Maxwell Roth, he sought the footlights like a moth, his sense of timing never off until he opted to collaborate with a hooded reprobate, the blighter and assassin made a deadly double bill. Jokes, 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 make them laugh until they choke, fairly slay them in the aisles, maidens fair and princes charming. Thrills, 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 dashing feats and bloody spills, and I guarantee you'll never see the ending coming. The curtain rose, the scene was set, they danced a murderous duet, and much deserving blood was let up to the scene wherein they disagreed on who should live and who should bleed, and Maxwell Rothy then received a very bad review. Jokes, 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 and there's daggers and there's cloaks, but behind the scenes the leading players differ on the plot. Laugh, laugh, laugh at the dandy's new red scarf, now 8 shows a week to Beelzebub is his eternal lot. Jokes, 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 make them laugh until they choke, fairly slay them in the aisles, maids fair and princess charming. Thrills, 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 dashing feats and bloody spills, and I guarantee you'll never see the ending coming.
Au village, la nouvelle du meurtre du docteur Robinson bouleverse les habitants. Le couteau de Muff Potter, retrouvé sur les lieux du crime, désigne son malheureux propriétaire comme étant l'assassin. Celui-ci est fait prisonnier dans l'attente de son procès. Tourmenté par sa conscience, Tom tombe malade. Délaissé par Becky au comble du désespoir, il décide de changer de vie et de réaliser son rêve. Il entraîne ses deux compères, Huckleberry Finn et Joe Harper, dans une nouvelle aventure. Nous sommes au chapitre 13, intitulé « Pirates ». À 5 km en aval de Saint-Pétersbourg, à un endroit où le Mississippi a près de 2 km de large, il y avait une île, longue et étroite, boisée, inhabitée, que l'on appelait l'île Jackson. Un banc de sable permettait de l'atteindre. Elle constituait donc un parfait lieu de rendez-vous pour des pirates. Vers minuit, Tom arriva avec un jambon et diverses autres provisions qu'il s'était procurées, mieux valait ne pas dire comment. Ce n'est pas pour rien qu'on est à hors-la-loi. Il se posta dans un fourré, sur une petite hauteur dominant le lieu du rendez-vous. Le ciel était clair, il n'y avait pas de vent. Le large fleuve avait l'air d'un océan au repos. Tom écouta, aucun bruit. Alors il fit entendre un léger sifflement. Du pied de l'escarpement, un sifflement lui répondit. Tom siffla 2 fois, on lui répondit de la même façon. Quelqu'un demanda à voix basse. «
Qui va là ? Tom Sawyer, le vengeur noir de la mer des Antilles. Qui êtes-vous ?
Huck, Finn les mains rouges, et Joe Harper, la terreur des mers.
C'est Tom qui avait trouvé ses surnoms dans ses livres favoris.
Bien, donnez-moi le mot de passe.
Ensemble, dans la nuit tombante, deux voix caverneuses répondirent
« Sang !»
Alors Tom lança son jambon du haut de la butte et se laissa glisser en s'écorchant et en endommageant quelque peu ses vêtements. Il y avait bien un chemin praticable, mais à quoi bon être pirate si c'est pour faire comme tout le monde ? La terreur des mers avait apporté à grand-peine une énorme pièce de lard fumé. Fine les mains rouges, du tabac en feuilles et des épis de maïs destinés à faire des pipes. Au bord de la rivière, il y avait un petit radeau dont il était convenu qu'il s'emparerait. Ce fut là l'occasion d'une expédition solennelle, menée dans toutes les règles de l'art. De temps en temps, l'un faisait « chut » et s'arrêtait brusquement un doigt sur les lèvres. L'autre caressait de la main le manche d'un poignard imaginaire. Tous savaient très bien que les hommes du radeau étaient au village en train de se désaltérer, mais cela n'était pas une raison pour ne pas procéder de la manière classique des pirates qui savent leur métier. La bande s'installa sur le radeau. Tom commandait, Joe manœuvrait la rame avant et Huck la rame arrière. Les sourcils froncés, les bras croisés, Tom se tenait au milieu du navire et donnait ses ordres à voix basse.
« Lofé est droit dans le vent. »«
Bien, capitaine. »«
Souquez ferme. »«
Bien, capitaine. »
Après quelques coups de rame, ils laissèrent le radeau dériver au-delà du milieu du fleuve paisible. Il passa en vue du village que quelques lumières permettaient de repérer et qui dormait paisiblement sans se douter de l'importance des événements qui se déroulaient à peu de distance. Le vengeur noir, les bras toujours croisés, jetait un dernier regard sur le théâtre de ses joies et de ses souffrances passées.
Ah, si elle avait pu le voir, bravant la tempête, affrontant tous les périls d'un cœur intrépide, un sourire amer aux lèvres, il jetait un dernier regard, le cœur brisé mais satisfait.
Les autres pirates, eux aussi, jetaient un dernier regard qui dura si longtemps qu'ils faillirent dépasser le banc de sable de l'île. Ils s'en aperçurent à temps et manœuvrèrent pour éviter le danger de justesse. Vers 2 heures du matin, le radeau s'échouait près de la pointe de l'île. Les pirates débarquèrent avec leur chargement. Dans le radeau, ils avaient trouvé une vieille voile dont ils firent une tente abri pour leurs provisions. Quant à eux, ils dormirent à la belle étoile. Des pirates pouvaient-ils faire autrement ? Leur premier souci fut de faire un feu près d'un gros tronc d'arbre à la lisière des sombres profondeurs de la forêt. Pour leur repas du soir, ils firent frire un morceau de lard et mangèrent la moitié de leurs provisions de pain. Dans leur joie de festoyer en toute liberté dans une forêt vierge, sur une île inhabitée, inexplorée, loin des demeures des hommes, ils déclarèrent renoncer à tout jamais à la vie civilisée. Les flammes du foyer leur éclairaient le visage et projetaient une lueur rougeâtre sur les troncs des arbres environnants et les feuillages des broussailles. Quand la dernière tranche de lard fut avalée, les dernières miettes de pain consommées, les enfants s'allongèrent sur l'herbe, épanouis par le bonheur.
« Épatant, hein ?» dit Joe.
« Fameux !» dit Tom. « Qu'est-ce que diraient les autres s'ils nous voyaient ?»«
Ce qu'ils diraient ? Mais ils mourraient d'envie d'être ici, pas vrai, Huck ?»«
Ce métier me va. Je ne demande rien de plus. Je ne mangeais pas tous les jours à ma faim, vous savez. Et puis ici, personne ne viendra nous embêter. »«
C'est la belle vie, » dit Tom. « Pas besoin de se lever de bonne heure le matin, pas d'école, pas besoin de se laver, ni rien de tout ça. Tu vois, Joe, quand il est à terre, un pirate n'a rien à faire.
Qu'est-ce qu'ils font, juste, les pirates ?
Oh, ils se la coulent douce. Ils s'emparent des bateaux, ils les brûlent, ils emportent l'argent dans leur île et l'enfouissent dans des cachettes sous la garde des fantômes et des revenants. Et puis, ils se débarrassent des équipages en tuant tout le monde à bord. On bande les yeux aux hommes et on les fait marcher sur une planche au-dessus de l'eau.
Les femmes, déclara Joe, on les emmène dans l'île, on les tue pas.
Non, confirma Tom, on ne tue pas les femmes.
Les pirates sont chevaleresques et les femmes sont toujours splendides, bien sûr.
Peu à peu, la conversation ralentit. Les jeunes aventuriers avaient sommeil. La pipe tomba des mains de Huck. Tout à coup, l'envie de dormir se fit ressentir. Ils allaient y succomber lorsqu'une intruse se présenta qui, elle, n'était pas d'humeur accommodante. Leur conscience. N'avait-il pas eu tort de s'enfuir ? Et cette viande qu'il venait de manger, ne l'avait-il pas bel et bien volée ? Angoissante question. Ils essayèrent bien d'imposer le silence à leur remords en rappelant à leur conscience que bien des fois ils avaient pris des bonbons et des pommes, mais la conscience n'admettait pas d'aussi pauvres excuses.
Quant à eux, il leur parut en fin de compte qu'un fait était certain, c'est que prendre des bonbons et des pommes, c'était seulement chipper, tandis que prendre des jambons et du lard, c'était carrément voler. Et cela, un commandement de Dieu le défendait. Eh bien, tant qu'il serait pirate, il ne volerait plus. Et la conscience au repos, ces pirates curieusement inconséquents avec eux-mêmes s'endormirent paisiblement. Mais l'exil est de courte durée et la voix de la conscience se fait à nouveau entendre.
J'ai du mal à trouver le sommeil depuis le meurtre. J'arrive plus à dormir tranquillement la nuit.
Oh, moi non plus.
Je sais plus très bien s'il faut respecter notre serment ou bien aller parler au shérif pour sauver meuf.
Oh, je te comprends, mais n'oublie pas de Joe l'Indien.
Oh, je l'oublie pas.
Hélas, un orage a bientôt raison des bonnes résolutions de nos pirates en herbe, qui décident de rentrer sur la terre ferme. Au village, les familles éplorées croyaient les enfants noyés. À leur retour, ils sont acclamés et portés en triomphe. Mais le jour du procès de Muff Potter approche. Tom et Huck se sont jurés de ne rien dire afin de ne pas risquer la vengeance de Joe l'Indien. Or, ils ont bien vu Potter se faire assommer par le docteur et le métis lui mettre le couteau dans la main afin qu'il passe pour coupable. Nous voici lors de l'audience finale. Potter est accablé par les témoignages en sa défaveur, fondés sur des rumeurs et sa mauvaise réputation. Les deux gamins vont-ils laisser un innocent être pendu? Nous sommes au chapitre 23, le tribunal. Le procureur se leva. Messieurs les jurés, les témoignages de citoyens dont la parole ne saurait être mise en doute nous ont apporté la confirmation que ce crime est sans discussion possible l'œuvre du malheureux prévenu ici présent. Nous n'avons rien à ajouter. Que justice soit faite! Le pauvre Potter laissa échapper un gémissement. Il se cacha le visage dans les mains. Son corps était agité par un tremblement tandis qu'un silence pénible régnait dans la salle. Des hommes manifestaient leur émotion, des femmes pleuraient. L'avocat de Potter se leva et dit « Monsieur le Président, notre intention au début de l'affaire était de prouver que notre client avait agi sous l'empire d'une ivresse qui lui a fait perdre la notion des choses et le sens de la responsabilité. Nous avons changé d'avis et ce n'est pas ainsi que nous plaiderons. » Se tournant vers le greffier, il demanda « Que l'on fasse comparaître Tom Sawyer ». Une surprise intriguée se lut sur tous les visages, sans excepter celui de Potter. Tous les regards se dirigèrent avec curiosité vers Tom Sawyer, qui venait de se lever et gagner la barre. Il ne paraissait pas à son aise. En réalité, il était effaré. Après qu'il eut prêté serment, le juge lui demanda « Tom Sawyer, où étiez-vous le 17 juin vers minuit ?» Tom jeta un regard sur le visage impassible de Joe l'Indien et la parole lui manqua. L'assistance écoutait fiévreusement, mais les mots ne venaient pas. Quelques instants après, l'enfant se ressaisit et dit « Dans le cimetière. » « Un peu plus fort, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Où étiez-vous ?»« Dans le cimetière, monsieur le président. » Un sourire de mépris passa sur les lèvres de Joe l'Indien. « Étiez-vous près de la tombe de Horace Williams ?» « Oui, monsieur le président. Un peu plus fort, étiez-vous caché ?»«
J'étais caché, monsieur le président. »«
Où cela ?»«
Derrière les ormes qui se trouvent à côté de la tombe. »
Joe l'Indien eut un tressaillement presque imperceptible. « Il y avait-il quelqu'un avec vous ?»«
Oui, monsieur le président, j'étais avec... »«
Attendez, ne dites pas le nom de votre compagnon, nous le convoquerons en temps utile. Portiez-vous quelque chose avec vous ?»
Tom hésita.
« Parlez, mon petit, n'ayez pas peur. Il faut avoir le respect de la vérité. Que portiez-vous avec vous ?»«
C'était un chat mort. »
Il y eut dans la salle une manifestation d'hilarité à laquelle le président mit fin. « Nous montrerons le squelette de ce chat comme preuve. Maintenant, mon petit, racontez ce qui s'est passé. Racontez-le à votre manière, sans rien omettre, et n'ayez pas peur. »
Tom commença, en bredouillant d'abord un peu, puis les mots lui vinrent plus facilement. Tous les regards étaient fixés sur lui. Chacun retenait son haleine et, sans tenir compte de l'heure, écoutait, bouche bée, la sinistre et passionnante histoire. L'émotion fut à son comble lorsque Tom déclara « Et quand d'un coup de la pièce de bois, le docteur a assommé Potter, Joe l'Indien a bondi, le couteau à la main et... » Coup de théâtre.
Rapide comme l'éclair, le métis, bousculant tous ceux qui se trouvaient sur son passage, venait de sauter par la fenêtre et avait disparu.
Ça peut pas faire de mal.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était peinard et sans corbeau et sans renard qu'on l'écrivait à grands coups de pied dans un ballon. Une vitre en moins, je prends du galon. Je grandissais. À une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains. Qu'importe si t'étais Rupin. On était tous légal, notre frangin de mandale. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en bande. Y'a une règle dans la truande, c'est à celui qui s'y colle qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle femme, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Depuis que je l'ai touchée au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière mi-close. Pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup.
Achevons notre récit sur cette fin heureuse. Tom Sawyer n'est pas seulement un gamin espiègle et roublard. Il est aussi un garçon courageux qui a sauvé la vie à un innocent. À l'occasion du procès, l'orgueilleux garçon réalise un autre rêve, celui de connaître la célébrité. Mais à quel prix ? Dans le passage suivant, Mark Twain dénonce aussi avec malice l'hypocrisie et l'inconstance de ses contemporains. Nous sommes au chapitre 24, intitulé « Jour de gloire, nuit de terreur ». Tom devint le héros du village. Les grandes personnes l'acclamaient, les jeunes lui portaient envie. Son nom passa à la postérité car le journal local chanta ses louanges. D'aucuns allèrent jusqu'à dire qu'il avait des chances d'être un jour président des États-Unis s'il n'était pas pendu avant. Le public, capricieux et impulsif comme toujours, ouvrit tout grand ses bras à Muff Potter et le choya avec aussi peu de mesure qu'il l'avait auparavant accablé de son mépris. Après tout, le public avouait s'être trompé. Qui songerait à lui faire un grief de reconnaître ses torts ? Les journées de Tom étaient de véritables apothéoses, mais ses nuits étaient des cauchemars. Il ne rêvait que de Joe l'Indien. Il voyait Joe l'Indien proférer contre lui des menaces de mort. Pour rien au monde, Tom ne serait sorti après la tombée de la nuit. Le pauvre Huck passait par les mêmes appréhensions. Tom ayant tout dit à l'avocat la nuit qui précédait le procès, Huck tremblait que l'on apprît le rôle qu'il avait joué dans cette affaire. On avait offert une récompense, on avait battu le pays, mais Joe l'Indien restait introuvable. On fit venir de Saint-Louis un de ces détectives qui ont la science infuse. Il fouina, ça et là, et avoua finalement n'avoir trouvé qu'une piste. Mais on ne pend pas une piste. Et une fois le détective reparti, Tom se sentit aussi peu en sécurité qu'auparavant. Puis les jours passèrent,
et lentement chacun d'eux contribua peu à peu à ramener le calme dans les esprits. Tom put enfin retrouver une vie normale et éprouver ce que tout gamin normalement constitué rêve de réaliser un jour, le désir irrésistible de partir à la recherche d'un trésor caché.
John Taylor, écrivain.
La lecture de Mark Twain, c'est... J'ose presque pas le dire parce que ça semble si bizarre, mais c'est une sorte d'angoisse métaphysique qu'il avait. Pareil déjà dans... peut-être un peu moins chez Tom Sawyer, mais déjà un peu, et surtout chez Huck Finn. Je crois que Mark Twain, c'est une des premières lectures d'adolescents qui donne la liberté, le sentiment de liberté et l'inquiétude, disons, spirituelle.
Découvrons la conclusion de ce roman d'aventure. Alors qu'il dédie son livre aux adultes, qui seront heureux d'y retrouver des souvenirs cocasses, voici que l'auteur adresse comme un dernier salut à l'enfant qu'il fut, comme une ultime tentative de suspendre le cours du temps. Ainsi s'achève cette histoire. Puisque c'est celle d'un enfant, il nous faut la terminer ici. Sinon, pour peu qu'on la continue, elle deviendrait celle d'un homme. Quand il s'agit de grandes personnes, on sait comment terminer les romans. C'est généralement par un mariage. Mais quand il s'agit d'enfants, c'est à l'auteur de savoir où s'arrêter. La plupart des personnages de ce livre vivent encore, et le destin leur a souri. Peut-être un jour quelqu'un sera-t-il tenté de reprendre l'histoire des plus jeunes et de voir quel genre d'hommes et de femmes ils seront devenus. Mieux vaut donc ne rien en dire pour l'instant.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Guillaume Roux, a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Perrine Malinge, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Thank you.